Badania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Le gouvernement français a annoncé qu'il ne ratifierait pas l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Raison invoquée, cet accord mettrait en péril la biodiversité et contribuerait à dérégler un peu plus le climat. En clair, cet accord permettrait notamment au Brésil d'exporter plus de viande bovine, ce qui impliquerait automatiquement une déforestation accrue de l'Amazonie, tandis que l'Union européenne, bien évidemment, exporterait elle de son côté plus de voitures et de produits chimiques. Autrement dit, un accord de libre-échange en contradiction avec l'accord de Paris sur le climat qui vise, je vous le rappelle, à limiter à 1,5 degré le réchauffement de la planète. Ce veto climatique marque-t-il une évolution dans les accords de libre-échange que l'Union européenne négocie avec le reste du monde? Et puis, si on ajoute à ça Donald Trump et Xi Jinping, est-ce qu'ils obligent eux aussi l'Union européenne à repenser sa stratégie commerciale, jusqu'alors omnubilée par le seul libre-échange, aux dépens du juste échange, des aspects environnementaux, sociaux, voire fiscaux? Sans oublier évidemment l'impact du Covid-19 qui a remis au goût du jour l'idée des relocalisations et qui redessine ou pas la mondialisation sous un nouveau jour. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints dans le studio de RFI ou par téléphone. Mathilde Dupré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-directrice de l'Institut Veblen. C'est quoi l'Institut Veblen en deux mots?
L'Institut Veblen, c'est une association qui travaille sur les réformes économiques dont on a besoin pour faire la transition écologique et sociale.
Et vous venez de publier aux éditions du Petit Matin avec Samuel Léré, après le libre-échange, quel commerce international face aux défis écologiques? Ça vient de sortir. C'est tout à fait dans l'actualité de notre émission. Elvie Farmi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'Institut Jacques Delors. Faut-il présenter l'Institut Jacques Delors?
L'Institut Jacques Delors, l'héritage de Jacques Delors dans sa vision d'intégration européenne. Voilà.
Thierry Pouge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du service des études et la prospective aux Chambres d'agriculture de France. En deux mots, les Chambres d'agriculture de France, on ne sait pas forcément ce que c'est.
Oh, c'est une vieille institution qui, pour faire vite, fait le lien entre la profession agricole et les pouvoirs publics. Ce sont des chambres qui ont été créées en 1924.
Bien, effectivement, ça ne nous rajeunit pas. Vous êtes par téléphone de Paris. Évidemment, vous ne pouvez pas être dans le studio car on ne peut pas avoir plus de 2 invités, Covid oblige, dans les studios de RFI. Et puis à Bruxelles, nous rejoignons Anna de Parnay-Kronenberg. Bonjour.
Oui, bonjour.
Je dis bonjour, je pourrais dire Guten Tag ou Guten Abend, car vous êtes eurodéputée allemande du groupe des Verts. Et évidemment, tout ce qui est commerce international s'intéresse de très près, notamment les Verts allemands comme les Verts français. Puis comme chaque semaine, nous font un détour par la rédaction de Courrier International avec Sacha Mitchell. Alors, Mathilde Dupré, tous nos auditeurs ne suivent pas au jour le jour l'évolution des accords dits de libre-échange que l'Union européenne négocie avec le reste du monde. Alors, il faut peut-être rappeler que l'Europe s'est construite d'abord en tant que marché, le fameux marché commun des débuts de la construction européenne, et tout naturellement pour que les Européens puissent exporter leur production, ils ont négocié des accords avec le reste du monde, avec à chaque fois la même idée, faire baisser les droits de douane et si possible les supprimer, de façon à faciliter les échanges, dans les deux sens bien évidemment. Ce sont ces fameux accords de libre-échange, je les ai bien résumés à peu près?
C'est bien résumé, ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est que pendant longtemps, c'est essentiellement à travers une organisation multilatérale, l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, qu'on a essayé de définir des règles communes en matière d'échanges commerciaux. Et puis l'OMC, depuis sa création, s'est trouvé un peu bloqué avec la difficulté de négocier de nouveaux accords à l'intérieur. Et finalement, presque toutes les régions du monde ont du coup développé des politiques très volontaristes en matière régionale ou bilatérale pour essayer de continuer à libéraliser le commerce par d'autres moyens, et notamment donc avec des échanges directement avec leurs principaux partenaires.
Et c'est notamment le cas de l'Union européenne qui a été très dynamique de ce côté-là. Ils sont très très nombreux, ces accords de libre-échange de l'Union européenne avec le reste du monde.
Ils sont très nombreux et l'Union européenne a ouvert un peu tous azimuts des négociations avec de très nombreux pays. En ce moment, elle a un accord avec le Mercosur qui est en finalisation, mais aussi avec le Mexique. Elle négocie avec des pays de l'ASEAN, donc en Asie, mais aussi avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, un peu avec les États-Unis. Enfin, il y a énormément de négociations qui ont lieu de façon simultanée.
Elvire Favry, l'accord UE, Union européenne-Mercosur, c'est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne européenne et une partie seulement de l'Amérique latine. Le Mercosur, c'est le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay. Ça laisse de côté le Venezuela, la Colombie, le Pérou, et évidemment le Chili. Mais c'est évidemment important. C'est quatre pays importants au sein de l'Amérique latine. Il a fallu beaucoup de temps pour arriver à cet accord. On a peine à le croire, mais ça a duré plus de 20 ans.
Oui, en effet, c'est l'aboutissement d'une négociation longue, douloureuse, parce que c'est vrai qu'au sein du Mercosur, les deux pays qui pèsent le plus, et celui qui pèse le plus, c'est le Brésil, et qu'on a affaire à des économies très fermées, très protectionnistes, et que ça a été difficile de négocier un accès à leur marché. Alors, je serais tentée juste de faire une précision sur ce que vient de dire Mathilde, j'abonde en tout point ce qu'elle venait de dire, mais quand on parle de libre-échange, peut-être qu'il faudrait aujourd'hui prendre un petit peu de distance avec ce terme même, parce que c'est vrai que ça a été pendant décennies une opération d'ouverture des marchés, et que depuis quelques années, notamment depuis 10 ans, c'est beaucoup plus un enjeu de régulation et du côté européen de recherche de commerce équitable, avec une charge de plus en plus lourde de règles dans les accords commerciaux, où on cherche à obtenir de nos partenaires des engagements sur la propriété intellectuelle, notamment, on va y venir, mais sur la question du développement durable, sur la protection des indications géographiques agricoles, enfin la partie réglementaire est de plus en plus forte.
Alors s'il a fallu 20 ans pour négocier cet accord, c'est que un accord de libre-échange UE-Mercosur, c'est des centaines, des milliers de pages,
C'est 2000 pages, c'est pour ça qu'on comprend la complexité de ces négociations, qui ne se jouent pas simplement sur des enjeux transactionnels de tarifs, de quotas, où les négociateurs ont pris le temps d'ajuster quand même de très près ces quotas, pour protéger le plus possible les secteurs les plus vulnérables européens et optimiser les intérêts, mais encore une fois aussi pour obtenir des engagements sur d'autres enjeux qui restent très durs à obtenir de manière bilatérale. C'est compliqué aujourd'hui de négocier à 160 cap membres au sein de l'OMC, mais on voit bien que quand tout le monde est concerné par les mêmes enjeux, l'impact est le même pour tout le monde. En bilatéral, il faut se mettre d'accord. Donc quand on impose des conditions et notamment des normes européennes importantes, normes sociales, normes environnementales, où on a une ambition de plus en plus importante côté européen, c'est compliqué.
Alors, pour qu'un accord entre en vigueur, il ne suffit pas qu'il soit signé entre les représentants du Mercosur et les représentants de l'Union européenne, à savoir la Commission européenne. Il faut encore un certain nombre de feux verts.
Et aujourd'hui, soyons clairs, on peut dire que le Mercosur est en train de se diriger vers la voie du frigidaire. C'est-à-dire que on a actuellement déjà des pays qui se sont prononcés contre, sans avoir procédé à un vote au Parlement, mais on a l'Autriche qui est contre, l'Irlande.
Ne dévoilons pas tout de suite. Je veux dire, la philosophie de ces accords, Thierry Pouche, c'est quand même le libre-échange de façon à ce que le commerce international soit le moins entravé possible. Et ça a plutôt pas mal fonctionné, notamment pour les consommateurs européens. Si on peut acheter des t-shirts si peu chers, si les voitures coréennes sont tout à fait compétitives avec les voitures européennes, c'est parce qu'elles ne payent pas de droits de douane. Et vice-versa pour le produit européen, les accords de libre-échange, ça a profité notamment aux consommateurs européens.
Il faut être, à mon avis, plus nuancé. Parce que il est vrai que quand on négocie un accord, et l'Union européenne est dans cette trajectoire, hein, c'est de faire en sorte que les consommateurs obtiennent des prix de biens inférieurs à ce qu'on pourrait trouver si on les fabriquait sur place. Mais il n'en reste pas moins que après il y a des contreparties. Si le consommateur en bénéficie, ce qui reste à démontrer, il y a aussi toutes les contreparties sur l'emploi qui peut être détruit par cet accord de libre-échange.
Alors c'est vrai que le consommateur est aussi parfois un travailleur.
Oui, voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Et c'est pour ça que dans votre propos introductif tout à l'heure sur les auditeurs ne suivent pas forcément tous les jours les accords de libre-échange, je crois au contraire que depuis quelques années, le consommateur citoyen se penche de plus en plus sur ces accords de libre-échange pour détecter les effets pervers que ça pourrait comporter en termes d'environnement maintenant, en termes d'emploi, en termes de croissance économique. Donc je crois qu'il y a une mobilisation aujourd'hui au-delà des agriculteurs qui sont quand même énormément concernés. Je crois que les citoyens se sont emparés de la question.
Anna de Pannekoenenberg, vous n'êtes pas la porte-parole de la chancelière Merkel, bien évidemment, encore moins du patronat allemand, puisque vous êtes eurodéputée verte. Mais c'est vrai que l'Allemagne est un grand pays exportateur, même le premier pays exportateur en Europe, et que les accords de libre-échange dans la philosophie politique allemande, c'est très important.
Ah oui, c'est vrai d'une certaine manière. Mais là, nous avons aussi, comme disait M. Pouch, une prise de conscience à la société allemande. Et beaucoup de consommateurs, beaucoup de citoyens se posent la question. Alors, faire toujours monter en chantilly encore plus d'air et encore plus de libre-échange entre les deux continents, ça veut dire quoi? C'est sûr que c'est une possibilité pour le consommateur d'avoir des produits peut-être moindres. Mais quand on regarde la forêt amazonienne qui brûle, quand on se rend compte du coût des transports maritimes au niveau fossile, c'est clair qu'en fait, c'est aussi une exploitation de l'environnement, de la nature, qui à la fin du compte, c'est aussi nous les citoyens et citoyennes qui allons les payer. Donc il y a une vraie prise de conscience. Et je pense que là, avec la décision par exemple de M. Macron, ça fait réfléchir aussi d'autres gouvernements.
Alors Mathilde Dupré, dans le cadre de cet accord Union européenne-Mercosur, il y a eu un petit grain de sable qui a enrayé la mécanique. C'est le réchauffement climatique et l'accord de Paris sur le climat. Et le petit grain de sable, ce serait éventuellement le veto d'Emmanuel Macron, comme le vient de l'évoquer Anna Deparnay-Grunenberg. Alors c'est vrai que jusqu'alors, ou en tout cas encore relativement récemment, la donnée climatique entrait peu dans la prise en compte et la rédaction d'un accord de libre-échange.
En effet, aujourd'hui, c'était pas vraiment le mandat des négociateurs européens, et il y a 20 ans encore moins, que de regarder en détail les impacts de ces accords et des échanges qu'ils vont promouvoir sur l'environnement et le climat en particulier. Mais ça change, notamment parce que depuis une dizaine d'années, l'Union européenne a revu un petit peu sa doctrine et prétend maintenant avoir une politique commerciale au service du développement durable, donc l'environnement, mais aussi les droits humains, sauf que ce qu'on constate, c'est qu'elle met beaucoup de temps à adapter cette politique commerciale et qu'elle a trop peu changé aujourd'hui pour être au rendez-vous des défis qu'on a à relever. Et donc là, on a effectivement une commission...
Si on prenait une image, pour vous, l'Union européenne et les institutions européennes, c'est un énorme pétrolier géant...
Ou un porte-container.
Ou un porte-container, oui, c'est encore mieux. Et pour le faire changer de direction, il faut un peu de temps, c'est ça.
C'est ça, et là, effectivement, on a le gouvernement français qui a réuni une commission d'experts qui nous dit, attention, cet accord, si on regarde juste le volet viande, ça pourrait accélérer la déforestation dans l'Amazonie entre 5% ou 25% par an pendant 6 ans, ce qui est absolument considérable étant donné la situation dramatique.
Que la forêt amazonienne brûle déjà.
Voilà, donc c'est maintenant de la responsabilité de l'Union européenne de vérifier que sa consommation et la consommation de ses citoyens, par cette consommation, ne se rendent pas complices de dégradation de l'environnement ou des violations des droits humains qui sont commises dans des pays tiers.
Elvire Barry, c'est vrai que ce risque de déforestation, il est totalement incompatible avec le Green Deal, le pacte vert, qui est la politique principale que la nouvelle Commission européenne met en place.
Absolument. Disons que lutter contre la déforestation est un enjeu majeur aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique et est un des morceaux importants de ce Green Deal. Pour ce qui est de l'inertie de l'Union européenne, je crois qu'il faut quand même garder à l'esprit que l'Union européenne est la région qui assure le leadership dans la lutte contre le changement climatique et qui a forcé les États membres, même le fait qu'il y ait cette dynamique européenne fait aussi qu'on a pu embarquer un certain nombre d'États membres qui n'auraient pas bougé peut-être aussi vite dans cette direction-là. Maintenant, il y a une question de hiérarchie. En effet, il faut mettre tous les feux au vert vers cette transition énergétique. Et peut-être qu'il faut replacer la question des échanges commerciaux aussi dans tout l'ensemble des mesures qu'il faut prendre. Parce qu'on sait bien qu'il y a des enjeux de consommation locale. D'abord, c'est peut-être la réduction de la consommation de protéines animales. Mais ça, c'est une question d'évolution sociétale européenne. Ensuite, il y a une question de diminution des importations pour réduire les coûts des transports. Et là, on sait bien que tout ce qui va dans le sens de l'économie circulaire et le programme de l'Union européenne qui s'appelle « De la ferme jusqu'à la fourchette » va dans ce sens-là. Mais il y a aussi des enjeux qui sont des enjeux d'influence, faire évoluer nos partenaires. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire évoluer la consommation européenne. Il faut rappeler qu'on est quand même que 7% de la population mondiale est bientôt 5%. C'est l'évolution de la consommation et de la production mondiale qui est en jeu. Et là, on sait qu'avec la politique commerciale, on a un levier qui est un levier clé. On en a quand même pas beaucoup aujourd'hui. On sait que la politique étrangère européenne, elle est embryonnaire, pour le moins embryonnaire. Et à travers cette politique commerciale, depuis 10 ans, on monte en puissance. Alors c'est vrai qu'on a un peu un sentiment de décalage entre ce qui vient d'être signé et les aspirations qui ne font que se renforcer. C'est-à-dire que le Parlement européen vient encore de prendre des engagements au niveau de la Commission environnement pour lutter contre la déforestation et imposer des normes aux entreprises.
Se renforcer relativement rapidement, les prises de conscience, c'est quand même relativement rapide, elle est quand même de plus en plus intense et ça se fait assez rapidement. Alors, vous aviez dit 7 ou 5% de la population mondiale, mais l'Union européenne reste quand même le premier marché mondial, ce qui est évidemment
un levier très important.
Thierry Bouge, vous non plus, vous n'êtes pas le porte-parole de la FNSEA, le principal syndicat agricole français, mais c'est assez rare, une conjonction entre, d'un côté, le monde agricole, à propos de cet accord Union européenne-Mercosur, et puis les écologistes au sens large du terme.
Écoutez, pour les agriculteurs, c'est quand même assez simple. Nous avions, au moment des négociations d'accords de libre-échange avec le Canada notamment, il y avait eu la négociation avec les États-Unis qui s'est interrompue avec l'élection de Donald Trump, et puis maintenant l'accord avec le Mercosur. Nous sommes en train de négocier avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et dans tous les cas de figure, s'il y a des gains à dégager pour certains secteurs, notamment l'automobile ou l'industrie pharmaceutique, tous les secteurs agricoles, à part les produits laitiers, en particulier le fromage, et en l'occurrence pour le Mercosur, la poudre de lait infantile, les intérêts défensifs étaient quand même très nombreux. Que ce soit en viande bovine, notamment sur des morceaux d'aloyaux en frais ou en congelé, l'éthanol avec la filière sucrière qui vient de sortir des quotas laitiers et qui est quand même extrêmement fragilisé. Donc vu le contingent qu'on a accordé au Mercosur et en particulier au Brésil sur le sucre, ça risque de déstabiliser une filière éthanol qui est quand même encore embryonnaire. Et puis j'irai quand même jusqu'à un secteur qui peut paraître secondaire, mais qui ne l'est pas aujourd'hui, notamment par rapport à la problématique environnementale, c'est l'apiculture, puisqu'on a accordé quand même un contingent assez conséquent en miel, qui peut donc aussi bouleverser les secteurs. Donc s'il y a une convergence, même s'il faut apporter des nuances entre les agriculteurs et les écologistes, c'est bien parce que il y a un certain nombre de domaines agricoles qui peuvent être fragilisés par tous ces accords, pas simplement le Mercosur. Hein. S'il y a un accord avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ça va être les produits laitiers, la viande bovine et la viande ovine qui vont constituer des menaces pour nos productions. Mais j'ajoute, puisque ça a été évoqué par l'une des invitées, les répercussions que ça peut avoir sur la présence des agriculteurs sur les territoires. Et donc, par voie de conséquence, sur la formation des circuits de proximité entre le producteur et le consommateur. Parce que si on fait venir davantage de viande ovine, d'agneau, alors qu'on est déjà très dépendant de l'extérieur pour notre approvisionnement, ça risque de bloquer, d'entraver le déploiement de ces circuits de proximité.
Anna de Van Kronenberg, bien évidemment les Verts et les écologistes sont globalement en vent debout contre ces accords de libre-échange, notamment en Allemagne bien évidemment, mais l'évolution la plus marquante c'est qu'ils sont de moins en moins seuls et même la chancelière Merkel émet quelques doutes sur la validité, l'intérêt de cet accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Et évidemment quand la chancelière Merkel, qui représente quand même le premier pays exportateur européen, émet des doutes, ça a évidemment un poids.
Oui, c'est un fait. L'Allemagne a été souvent caricaturée que d'un côté, bien sûr, les Allemands veulent vendre leurs voitures et ils veulent acheter de la viande car ils aiment tellement les barbecues. C'était donc un peu la caricature. On se rend compte lentement que les accords de libre-échange, surtout comme ils sont mis en avant, on pense faire la partie commerce et normes d'un côté et les autres, on va dire... il y a toujours deux ou trois textes hein, qui sont en parallèle, qui ont donc plutôt un impact sur le social ou sur l'écologique, que ces textes-là, on pourrait les mettre en arrière. Et ça, c'est une faute. Et je pense que le gouvernement allemand l'a bien compris, que ça va être très, très difficile, même si on a des accords, on va dire, sur le développement durable, sur, en fait, cette soi-disant influence qu'on peut avoir sur les pays avec lesquels on fait un libre-échange. C'est un peu ça, toujours, je dirais, le fond sonore. C'est... Oui, il faut faire du commerce. Après, les êtres humains deviennent frères et sœurs s'ils font du commerce. Et en deuxième main, on va pouvoir, donc, même au niveau des droits humains et des droits de l'environnement, monter de standards. À la fin du compte, on se rend compte, et surtout avec un président comme M. Bolsonaro, qui dit tout à fait ouvertement, lors des accords sur le climat, qu'est-ce qui m'intéresse le climat? Moi, je veux du business. On se dit, OK, alors comment on va pouvoir faire un accord qui tient la route? Et ça, c'est un peu, on va dire, la dispute que nous avons en ce moment au niveau des députés de l'Union européenne. Certains disent, mais si on ne fait pas d'accord du tout, vous êtes bien d'accord, la forêt brûle déjà, donc ça va rester pire. Donc, essayez de faire un accord avec des clauses de développement durable. Et là, nous, les écologistes, et d'ailleurs aussi tout le comité de l'agriculture, et donc certains pays comme l'Autriche, la France, disent « mais stop ! Nous avons là un partenaire qui déjà les traités existants, et on va dire assez simples, comme les accords de Paris, il refuse et il dit « ça ne l'intéresse pas ». Alors comment croire qu'il va protéger la forêt si on importe avec moins de douane beaucoup plus de soja ? Alors là, on a vraiment en fait comme un peu un exemple qui reflète l'absurdité de cette voie où au début, en fait, on voulait aller vers un multilatéralisme qui met des normes et qui aide, enfin, on va dire, le commerce international. On va maintenant vers un espèce de bilatéralisme où tout le monde dit à l'autre « ah, mais nous deux, on va être frères contre les autres et on va céder ». Mais à la fin du compte, on ne peut pas céder les uns les autres, tous, en catimini. Et à la fin du compte, c'est l'environnement et le capital de la nature qui va payer, en fait, les pots cassés. Et bien sûr, nous, les citoyens et citoyennes, à la fin aussi, vu que nous vivons tous sur la même planète.
On comprend bien la complexité du problème.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, le veto français pour signer cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, marque-t-il un tournant dans le, si ce n'est la politique, en tout cas déjà le regard que l'Union européenne porte sur ses futurs accords de libre-échange et sur la mondialisation en général? Nous sommes avec Mathilde Dupré, elle est co-directrice de l'Institut Veblen, avec Elvire Fabry, chercheuse à l'Institut Jacques Delors, avec Thierry Pouche, il est responsable du service des études et de la prospective aux chambres d'agriculture de France, et avec Anna de Parnay-Kronen en ligne de Bruxelles, et l'hétérodéputée allemande du groupe des Verts. Alors, à ce niveau de l'émission, eh bien, il est temps de faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
De l'autre côté de l'Atlantique, évidemment, autre son de cloche, ça grince des dents, et ça grince des dents très très fort. En Argentine, par exemple, le journal, alors je vais le dire en français, Pagina 12, fustige un sacrifice du traité sur l'autel de la protection de la biodiversité et du climat. Les Argentins sont pas tendres avec les Européens.
Exactement, mais c'est un sacrifice hypocrite, surtout estime ce quotidien orienté à gauche. Pour motiver son refus, la France pointe notamment les feux de forêt au Brésil qui servent à gagner des terres pour l'agriculture. Pourtant, Paris et l'UE de manière générale ne s'étaient pas montrés aussi tatillons à propos du CETA, le traité de libre-échange bilatéral entre l'UE et le Canada, entré en vigueur en 2017. À l'époque, pourtant, la liste de ses défauts était longue. Viande de bœuf bourrée d'hormones de croissance, non-respect des directives de l'accord de Paris sur le climat et coûts portés à l'agriculture et aux éleveurs européens pour ne citer que quelques défauts. Mais comme toujours, déplore Pagina 12, l'Union européenne se montre compréhensive avec certains pays mais intransigeante avec les latino-américains.
Alors évidemment, le journal vise notamment les agriculteurs français qui crient à la concurrence déloyale.
Oui, ces contestations qui émanent notamment du syndicat FNSEA sont qualifiées d'absurdité historique par Pagina 12. Une absurdité venue d'un secteur accusé depuis des décennies de déstabiliser l'ensemble du système commercial agricole mondial en raison des subventions faramineuses reçues dans le cadre de la PAC. En fait, par cette décision, le gouvernement français soumet à des impératifs politiques nationaux les termes d'un accord international négocié pendant 20 ans, assure le journal argentin. Et c'est habile. Les écologistes sont ravis parce que les puissances coloniales les plus destructrices de la biodiversité refusent de s'allier avec un vulgaire pyromane comme le président brésilien Jair Bolsonaro. Et de leur côté, les agriculteurs se débarrassent d'un accord qui briserait leur monopole. Alors que la campagne électorale pour l'élection présidentielle française de 2022 se prépare, le moindre bulletin de vote comptera, ironise le quotidien. Mais plus largement, à l'échelle européenne, ce refus sert de prétexte pour concevoir une nouvelle doctrine commerciale à la sauce environnementale, analyse Pagina 12. Très remontée, le journal conclut ainsi « En attendant, les Européens se donnent le beau rôle, celui de donneur de leçons, en mettant en avant des principes qu'ils ne respectent jamais dans d'autres régions du monde, ni lorsqu'ils signent des accords avec d'autres puissances, ni lorsqu'ils vendent des armes aux dictatures les plus sanguinaires du monde. »
Merci Sacha Mitchell, Courrier International Hebdo et courrierinternational.com, le site. Je me tourne évidemment vers vous, Thierry Pouche. En gros, ce que dit le journal argentin Pagina 12, ben c'est en refusant de signer cet accord, les Français, notamment les agriculteurs français, se réfugient derrière un protectionnisme de bon aloi.
Oui, il y a quand même quelques rectifications à faire sur ce qui a été dit. D'abord sur le CETA, hein, qui est rentré en application, je précise, provisoire en 2017, parce que nous sommes toujours dans processus de ratification.
On va en dire un mot sur le CETA.
Oui, je voulais juste rappeler ce point-là.
Sur le Mercosur, on savait quand même que depuis maintenant pas mal d'années, il y avait des problèmes sur la forêt amazonienne. On a intégré dans l'accord la question de l'accord de Paris, mais on considère, et c'est le rapport de la commission mis en place par Édouard Philippe qui le dit, on considère qu'il n'y avait pas suffisamment de garanties pour que le Mercosur respecte cet accord de Paris, sans parler évidemment de tout ce qui relève du bien-être animal, de la reconnaissance des préférences européennes vis-à-vis des normes sanitaires notamment. La question qui peut se poser du coup, c'est pourquoi est-ce qu'on a négocié cet accord ? Si c'était pour en arriver à le rejeter alors qu'on avait déjà des informations sur l'évolution de l'agriculture brésilienne, on peut se poser la question. Après, sur les agriculteurs qui se réfugient derrière le protectionnisme et la politique agricole commune, je souhaite quand même rappeler que depuis la réforme de 1992 et au gré de toutes celles qui ont suivi par la suite, on est sur une agriculture de moins en moins protégée. Les aides diminuent de réforme en réforme. Il y a des conditions qui sont drastiques pour avoir le bénéfice de ces aides. Nous avons des productions qui ont diminué, notamment en viande bovine. Et nous avons ouvert notre marché depuis les accords de Marrakech signés en 1994 et au gré de tous les accords de libre-échange que nous avons signés par la suite. Donc l'idée de se réfugier derrière une protection garantie par l'Union européenne, c'est un petit peu excessif dans la mesure où cette protection, elle a été démantelée de réforme en réforme. Donc les agriculteurs aujourd'hui sont de moins en moins protégés par la politique agricole commune.
Alors on va, Thierry Pouch l'évoquait, le CETA, Mathilde Dupré. Alors le CETA, c'est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Alors lui, il a été signé il y a déjà quelques années. Il n'a pas été ratifié, car évidemment, un accord de libre-échange doit être ratifié par le Parlement européen et par la plupart des pays, des parlements nationaux. Il y en a encore 27 depuis le départ des Britanniques. Donc c'est toujours un petit peu compliqué à mettre en place. Et quand l'accord n'est pas ratifié, il entre, c'est ce qu'expliquait Thierry Pouch en quelques mots, il entre en vigueur provisoirement. Ça veut dire que cet accord qui n'est pas ratifié avec le Canada, eh bien, il fonctionne. Et ça pose déjà quelques problèmes, notamment, c'est pas le seul, mais en ce qui concerne le bœuf. Alors les Canadiens sont pas des grands exportateurs de viande bovine, mais néanmoins, la viande bovine canadienne, la viande bovine européenne, c'est pas tout à fait la même, semble-t-il.
Je pense que effectivement, par rapport à ce qui était dit dans l'analyse qui est faite de l'autre côté de l'Atlantique, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que les mouvements citoyens européens de contestation par rapport à cette politique commerciale ne concernent pas que l'accord UE-Mercosur. Effectivement, les négociations avec les États-Unis, d'abord le TAFTA, et puis ensuite avec le Canada, ont cristallisé aussi déjà beaucoup de craintes et de préoccupations. Un élément important, c'était de se rendre compte qu'en fait, on importe des produits qui ne correspondent pas aux normes européennes de production. Et ça avait été déjà bien mis en exergue par la commission d'experts qui avait été nommée par le gouvernement français sur le CETA, où il était rappelé qu'il y a un certain nombre de produits qui peuvent être traités avec des pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne et qui sont autorisés dans ces autres pays et qui peuvent ensuite être exportés vers l'Union européenne et se retrouver dans nos assiettes.
Parfois, c'est même plus pervers. Il y a des produits, des pesticides interdits en Europe, mais qui sont fabriqués en Europe, exportés, et qui reviennent sous forme de viande traitée par ces pesticides ou ces voilà
ou des denrées agricoles mais effectivement et ça montre cette situation complètement absurde que aujourd'hui on a des règles qui n'ont pas suffisamment pris en compte ces considérations sanitaires environnementales et qu'il faut les revisiter et c'est difficile dans le cadre actuel. On le voit là, en plus il y a eu un récent rapport d'audit sur le Canada qui montre que par ailleurs, toutes les recommandations qui avaient été faites par la Commission européenne sur la viande et la traçabilité et le fait de ne pas utiliser d'hormones en 2014, elles n'ont pas été mises en œuvre et que il y a encore des gros problèmes de traçabilité et des grosses défaillances et des grosses lacunes dans l'organisation de ces filières. Donc, c'est quand même très surprenant quand on sait l'émotion qu'a suscité la ratification de cet accord dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, de se dire que même avec un pays comme le Canada, entre guillemets, dont on dit que c'est soi-disant un partenaire facile dont on serait relativement proche, au final, on a du mal à obtenir des engagements sérieux, crédibles et respectés sur des sujets qui sont très importants.
Et si je me souviens bien, Justin Trudeau, lorsqu'il est venu à Paris, il a dit « Mais si vous ne signez pas un accord de libre-échange avec nous, avec qui le signerez-vous » Alors, on a bien compris, vous l'avez déjà un peu expliqué, que l'accord Union européenne-Mercosur, il a du plomb dans l'aile, que l'accord sur le CETA, il y a un point d'interrogation. Il est toujours, il a pris appliqué provisoirement, mais tout de même, ça fait un petit point d'interrogation. Si la France ne le ratifie pas, est-ce que ça le remet en cause? Et est-ce qu'on est à la fin d'un cycle dans l'organisation, dans la négociation de ces traités de libre-échange entre l'Union européenne et le reste du monde?
Oui, si un pays ne le ratifie pas, ça bloque en effet le processus de ratification, ça suspend l'accord. Maintenant, je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses. L'application des normes européennes, elle ouvre un champ colossal sur un enjeu majeur pour les années qui viennent, un enjeu de traçabilité. Tout ce qu'on importe sur le marché européen doit respecter les normes européennes, c'est le produit fini.
D'importation.
Et maintenant,
les normes européennes d'importation.
Les normes européennes d'importation.
Les normes de production.
Oui, mais c'est bien à ça que je viens, c'est que le produit qui arrive dans notre assiette, il doit respecter un certain nombre de normes. Maintenant, on s'intéresse de plus en plus à la façon dont a été fabriqué ce produit, qu'il s'agisse d'un produit industriel, d'un produit alimentaire, et évidemment, tout ce qui est agroalimentaire nous concerne d'encore plus près, concerne tous les citoyens.
Donc des normes environnementales, sanitaires,
sociales,
et de plus en plus sociales pour les produits industriels.
Le bien-être des animaux, le taux de pesticides, c'est une enveloppe globale, et c'est vrai qu'on veut remonter le plus loin possible sur les chaînes de valeur. Et je pense qu'on va y venir dans le débat. C'est très intéressant aujourd'hui de traiter cet enjeu à l'ère post-Covid, où on a regardé de plus près comment fonctionnaient ces chaînes de valeur et quelles connaissances on avait sur ces chaînes de valeur, quelle capacité de traçabilité on avait. Soyons clairs, la capacité de traçabilité aujourd'hui, elle est très limitée. Elle est limitée à un travail de coopération avec les autorités, pour tout ce qui est produit alimentaire, avec les agences de vétérinaires
et certifications. C'est souvent du déclaratif.
Oui, enfin, c'est du déclaratif, mais il y a aussi des inspections européennes, il y a des audits. Mathieu Dupré vient d'évoquer là l'audit qui avait été réalisé par la DG Santé de la Commission européenne sur des importations canadiennes. Évidemment qu'il y a des failles. Il y a des failles aussi au sein de l'Union européenne. Ne nous aveuglons pas sur la question. Tout n'est pas toujours plus laid ailleurs. Il y a aussi chez nous. Mais je pense qu'il y a cette question de la traçabilité qui est un enjeu majeur et sur lequel il va falloir progresser. Mais qu'on ne peut pas faire un saut quantique du jour au lendemain. Et puis il y a une autre chose qui est la question de la déstabilisation des filières. Juste en un mot, sur la question du bœuf, c'est très intéressant de voir aujourd'hui comme après 3 ans d'application du CETA, c'était la question avec l'éthanol et encore quelques autres filières que l'on regardait de beaucoup plus près, en craignant une déstabilisation de la filière bovine, de la viande, puisque au contraire, la filière laitière attendait énormément de pouvoir exporter. Ce dont on se rend compte, c'est que bon, non seulement les Canadiens ne peuvent exporter que du bœuf sans hormones, avec les enjeux que vous avez soulevés, mais qui sont des enjeux de, encore une fois, de contrôle, mais ne peuvent importer que du bœuf aux hormones, comme tous les autres partenaires européens. On n'accepte pas de bœuf aux hormones, mais ils n'ont pas réussi à atteindre le quota qui leur était imparti avec des réductions tarifaires pour importer des produits dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, ce que vient de dire 3 ans après les autorités canadiennes, c'est dire on ne tire pas assez parti de cet accord. C'est l'Union européenne qui est la grande bénéficiaire et ils n'arrivent même pas à atteindre les quotas impartis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de déstabilisation de la filière. Alors il faut s'inquiéter à l'effet cumulatif entre les différents accords. Et le Mercosur, il faut rappeler qu'actuellement, ça concerne des volumes d'importation qui ont déjà lieu. Simplement, on enlèverait les tarifs sur la moitié des importations, ce qui correspond à aujourd'hui la moitié des importations de bœuf. Mais par ailleurs, dans d'autres accords, comme avec le Vietnam ou le Japon, on a au contraire eu accès à des marchés qui, eux, vont importer du bœuf. Donc il y a aussi des équilibres qui se font entre les différents accords. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut à la fois être très vigilant sur les points sensibles et les filières les plus vulnérables, et en même temps garder la vue d'ensemble. Et aujourd'hui, ce qui nous retient sur le Mercosur, c'est d'abord la question de la déforestation. C'est évident qu'un président comme Bolsonaro, non seulement n'apporte pas les gages de bonne foi, puisqu'on voit qu'il l'encourage, la déforestation, mais que c'est un enjeu suffisamment majeur pour le respect de l'accord de Paris pour qu'on suspende une ratification à ce que seraient des engagements de ce président ou du suivant.
Anna de Parnay-Grunenberg, la Commission dit, ben voilà, il faut essayer de maîtriser la mondialisation, il faut essayer de la régulariser, il faut qu'elle soit respectueuse de l'environnement et des minima sociaux, plutôt que le libre-échange sauvage ou la loi du plus fort et du moindre coût emporte tout sur son passage. C'est ce qu'est en train de dire la Commission petit à petit. C'est évidemment un changement profond, en tout cas dans les mots. Comment s'est ressenti cette évolution, ce regard forcément un peu nouveau que l'on a sur la mondialisation et forcément un peu plus avec cette crise, cette pandémie que nous vivons encore actuellement. Est-ce que pour l'Allemagne, qui est le premier exportateur européen, je l'ai déjà dit, est-ce que l'état d'esprit est en train de changer ou pas?
Alors avant de vous parler de l'Allemagne, j'aimerais parler une fois de la France parce que
allez-y.
C'est quand même quelque chose aussi qui est surprenant. La France a été, malgré les discours quelquefois critiques, pour l'instant, toujours aussi au sein de l'Union européenne, complètement pour le libre-échange. Et donc nous avons vu au début de l'ère présidentielle de M. Macron, le CETA a été quand même vite fait, bien fait, mis en place, au moins le texte provisoire. Et dans ce cas-là, nous devons aussi regarder un peu le bilan de quel pays de l'Union européenne exporte, importe beaucoup avec l'Amérique du Sud, surtout avec l'Argentine et le Brésil. Et là, nous voyons que la France n'est pas non plus très, très intéressée. Donc, ça ne veut pas dire que je remets en cause les vraies raisons pour lesquelles, on va dire, la France refuse, mais on peut aussi peut-être se poser la question s'il n'y a pas aussi, quand avec le Canada, c'était un enjeu beaucoup plus grand, et les aspects négatifs, écologiques et autres, étaient tout aussi grands. Il n'y avait pas eu une grande discussion. Et là, bon, on peut espérer, et ne pas être mauvaise langue, que le thème de la biodiversité et le fait que nous habitons tous sur cette même planète et que la base de notre vie à tous est aussi la base de l'économie future, et qu'il y a un vrai changement de mentalité, on peut l'espérer. Je n'en suis pas encore tout à fait sûre. En tout cas, ce qui arrive maintenant, et ça, je pense que c'est en train de mûrir aussi en Allemagne et en France aussi, par rapport à toute l'époque, on va dire, du Covid, où les gens ont remarqué que c'est quand même important d'avoir des circuits courts, de peut-être avoir une alimentation plus régionale. Il y a eu quand même là peut-être une évolution, parce que en fait, le libre-échange, à la fin du compte, si on le décline complètement, comme, on va dire, les grands fans du libre-échange, que je ne suis pas, ce serait une hyper-spécialisation. En fait, chaque pays sait faire le mieux selon son savoir, son histoire et les ressources naturelles, quelques produits, et il fait ça pour la planète entière. En échange, il reçoit tous les autres pays des autres. C'est une hyper-spécialisation si on va dans les grandes étapes vers un libre-échange, en fait, qui est stipulé les dernières années. Là, on se rend compte que c'est des systèmes qui ne sont absolument pas résilients à des grandes catastrophes. Ils ne sont pas résilients à une pandémie. Si on a besoin, pour une raison ou pour une autre, justement, de fermer les frontières ou peut-être de s'isoler pour une raison ou pour une autre, ce genre
d'organisation
est elle est très, très sensible, en fait. Et en fait, là, on a, je pense, un peu un retour en arrière. Et bien sûr, la France étant quand même un pays où l'agriculture a une grande voix, là, les agriculteurs se forment et disent « c'est pas possible, on va pas commencer à être en concurrence avec les exploitations brésiliennes du bœuf. Ils ont complètement d'autres paysages, ils ont complètement d'autres lois, d'autres standards au niveau de la protection de l'animal. Il n'y a absolument pas les mêmes normes. C'est un combat complètement injuste. Et c'est vrai que je pense que le contribuable européen, qui lui subventionne quand même énormément l'agriculture européenne, va aussi devoir se poser la question. Est-ce que c'est juste de mettre 58 milliards par an dans la main des agriculteurs pour leur faire aussi respecter certaines normes, faire avancer peut-être l'agriculture vers quelque chose de plus durable? C'est pas encore gagné, entre parenthèses, mais bon. Et en même temps, on ouvre là une concurrence, on va dire, complètement déloyale.
Oui,
on fait du transport maritime, on fait remonter le
fossile. Et le bilan carbone n'est pas très très bon. On voit évidemment toutes ces contradictions, Mathilde Dupré. Alors, je vous posais les questions, on a encore un peu de temps pour cette émission, mais on arrive quand même vers la fin. Est-ce que c'est la fin d'une certaine forme de mondialisation, au moins dans les mots? Après, il faut passer aux axes, c'est autre chose. Est-ce que c'est le retour du protectionnisme? Est-ce que c'est le retour de l'autonomie stratégique? On a bien vu, pour parler un peu du Covid, que on était très surpris de découvrir les uns et les autres que rares étaient les médicaments qui étaient fabriqués en Europe, je ne parle même pas de médicaments fabriqués en France.
Je suis pas certaine qu'on soit à un tournant, notamment parce que il faut quand même avoir en tête que les mots du président sur cet accord UE-Mercosur, c'est que la France s'y opposera en l'état, et tout est dans le en l'état. Quel engagement de la part du Brésil notamment pourrait faire changer la France d'avis, ou est-ce qu'il faut revoir le contenu du texte?
Alors à propos des citations d'Emmanuel Macron, dans votre livre, hein, après le libre-échange, quel commerce international face aux défis écologiques, vous citez Emmanuel Macron qui dit le 12 mars 2020, donc à la veille du confinement en France, à propos du coronavirus, il nous oblige à nous interroger sur le modèle de développement dans lequel on s'est engagé notre monde depuis des décennies, qui dévoile ses failles au grand jour, et de poursuivre ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché, dans le livre de Mathilde Dupré et de Samuel Léré.
On l'a pas inventé.
Aux éditions du petit matin.
C'est effectivement les mots qu'il a eus. Je pense qu'on est très loin aujourd'hui de ça. Et au niveau européen, il y a un début de discussion sur les questions d'autonomie stratégique, etc. Et en même temps, on a vu pendant le confinement l'annonce de la conclusion d'un nouvel accord avec le Mexique sur le modèle similaire à celui du CETA ou du Mercosur. Donc, encore une fois, on le disait, il y a une très grande inertie dans la politique commerciale, ce qui est grave en quelque sorte, parce que les accords qu'on conclut et qu'on signe aujourd'hui nous engagent pour les décennies à venir, en fait, dans un modèle d'organisation de la production, de la consommation et des échanges. Et que l'Union européenne, elle a quand même pris des engagements très ambitieux avec le Green Deal sur la neutralité climatique, sur le fait de décorréler la croissance de l'utilisation des ressources. Et en réalité, si on se tient à ces engagements-là, ça veut dire qu'il faut réorganiser beaucoup de choses et que la politique commerciale, elle doit être revue et corrigée très rapidement. Et je pense que ça passe aujourd'hui par le fait que on mette un coup d'arrêt à toutes ces négociations telles qu'elles sont embarquées, pour que on réexamine les mandats de négociation et ce qu'on cherche à faire à chaque fois. Donc effectivement, importer plus de viande d'Amérique latine pour exporter plus de produits type pesticides interdits qu'on n'utilise plus chez nous et qu'on vend à ces pays-là, c'est peut-être quelque chose qu'il ne faut plus faire et sur lequel on doit se pencher.
Alors Thierry Pouche, ce que vient de dire Mathilde Dupré, c'est, je résume un peu son interrogation, est-ce que le commerce peut être une fin en soi aujourd'hui, en 2020 et dans cette décennie qui s'approche, avec les difficultés que l'on voit, fait ce changement quand même à grande vitesse, en tout cas dans les états d'esprit, est-ce que le commerce peut-il être encore une fin en soi? Est-ce qu'il n'y a pas eu avec ces traités une espèce de fuite en avant?
Il faudrait poser la question aux autorités européennes qui ont quand même forcé la main sur ces accords de libre-échange, après avoir privilégié le multilatéralisme, après avoir été occupé à élargir son marché intérieur. On a une Union européenne qui jusqu'à aujourd'hui était très adepte du bilatéralisme commercial. Donc il faudrait lui poser la question, j'ai un point de vue là-dessus. Mais le commerce, historiquement, en tout cas dans la période moderne où les économistes se sont penchés là-dessus et ont théorisé le commerce international, c'était pas une fin en soi, c'était pour justement faire en sorte qu'on puisse faire circuler des marchandises en tablant sur le principe de la spécialisation pour avoir des coûts moindres pour le consommateur, et c'était aussi dans une perspective géopolitique pour pacifier les relations internationales. Aujourd'hui, dans la mondialisation qu'on a connue depuis plus de 30 ans, ce à quoi on assiste, c'est un retour des nationalismes économiques. C'est le Brexit qui essaye, le Royaume-Uni essaye de recouvrer sa souveraineté économique. Ce sont les États-Unis, évidemment, avec Donald Trump. On peut citer la Russie. Il y a quand même quelques turbulences au sein de l'Union européenne sur un certain nombre de réglementations communautaires. Et ce nationalisme économique se manifeste en particulier dans l'agriculture. Et on l'a bien vu avec le Covid, cette restauration de la notion de souveraineté alimentaire et de promotion des circuits courts est une illustration de cette mondialisation qui est en crise aujourd'hui. Et du coup, on peut se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas aujourd'hui dresser un inventaire de la mondialisation qu'on nous a quand même vendu depuis maintenant plus de 30 ans, y compris dans l'Union européenne, et voir ce qu'on peut faire dans la situation sanitaire actuelle, qui traduit quand même une sorte de catalyseur de tensions sous-jacentes qui était là depuis 15 ou 20 ans. Et ça se traduit fort bien dans le conflit sino-américain, parce que l'Union européenne, elle peut inscrire dans son projet de la ferme à la table l'idée d'être neutre en carbone à l'horizon 2050. Et dans la section 4 du document, il y a la perspective de réexaminer la politique commerciale de l'Union européenne. Mais en pleine guerre commerciale sino-américaine, le président de la Commission, M. Juncker, était allé aux États-Unis et avait accepté d'importer un peu plus de soja américain dans la mesure où les producteurs étaient en difficulté pour exporter vers la Chine à cause du conflit commercial. Donc il y a une contradiction finalement dans les termes. L'Union européenne importe un peu plus de soja des États-Unis aujourd'hui. Donc ça pose aussi un certain nombre de questions sur la cohérence de la politique commerciale européenne. Et j'ajoute quand même que dans ces discussions sur les accords de libre-échange, on a beaucoup parlé du CETA et du Mercosur, on va certainement parler de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande dans peu de temps, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on a eu un accord avec le Japon qui est particulièrement favorable pour les producteurs européens et pour les producteurs français, en particulier de viande bovine. Donc ça, on n'a pas énormément détaillé cet accord avec le Japon, qui d'une certaine façon est un bon accord.
Voilà, un accord gagnant-gagnant, comme on dit.
Oui, c'est ça.
Fabrice, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. L'Union européenne garde en main, dans son jeu, une carte qui pourrait être une carte maîtresse, c'est sur les fameuses taxes aux frontières pour les pays qui exportent des produits qui ne répondent pas justement aux normes environnementales, sociales, fiscales, etc., etc. Évidemment, cette taxe n'existe pas encore, mais elle pourrait exister. En tout cas, elle est à l'ordre du jour.
Absolument. C'est la taxe carbone d'ajustement aux frontières, c'est l'idée en fait de pouvoir, c'est l'idée de pouvoir équilibrer les efforts faits en interne dans les modes de production européens pour réduire l'empreinte carbone de nos modes de production, avec dans la concurrence qui s'exerce à travers les échanges commerciaux, donc demander à nos partenaires à l'entrée, quand ils importent des produits chez nous, à ce moment-là, de payer cette taxe et qui permet d'équilibrer, à la fois de leur faire un effort sur leur mode de production et puis d'équilibrer les termes de la concurrence par rapport à notre production. Je pense qu'aujourd'hui, on est le Covid va pas révolutionner la façon dont tourne le monde et la mondialisation. En revanche, on est quand même en train de sortir, on a le sentiment qu'on est en train de sortir du coût minimum et du juste à temps. Et que là, il va y avoir un effort qui est pas simplement un effort que les autorités étatiques vont imposer aux économies, mais que les acteurs économiques eux-mêmes ont intérêt à engager pour assurer la résilience de leur chaîne de production, mieux les connaître, éviter de pouvoir de dépendre trop d'une
c'est l'idée d'un pays. Partiellement de la relocalisation dont on n'a pas eu le temps de dire vraiment grand-chose, mais enfin c'est une partie de cette idée.
Ben, ce que vous disiez à propos de l'autonomie stratégique, c'est que finalement la question se pose à partir plus spécifiquement pour le secteur pharmaceutique et c'est posé pour le paracétamol, mais maintenant il va falloir discuter de savoir ce qu'on met derrière l'appellation de qu'est-ce qui est stratégique. Mmh. On pense évidemment assez spontanément à des enjeux alimentaires, pharmaceutiques, médicaux, mais ensuite il y a des enjeux de technologiques aussi, digital. À quel niveau mettons le curseur et quelle est la solution? Parce que ça va passer pas forcément par une logique toujours de relocalisation. On est dépendant déjà de matières premières, on est dépendant de certains savoir-faire et parfois davantage de diversification à l'échelle régionale d'abord en essayant de rapprocher, mais aussi de diversification avec différents partenaires. Et pour ça, c'est important aussi que l'Union européenne et multiplier ces partenariats privilégiés à travers le monde. Donc c'est une réflexion qui s'engage. Il y a une révision de la politique commerciale qui est actuellement en cours. Ça fait partie des enjeux forts de l'agenda communautaire avec cette conciliation entre l'agenda de changement climatique et commerce. Trouver plus de cohérence entre les deux. Mais juste pour finir, il me semble qu'il faut être prudent aussi avec l'argument de la distance. C'est évident qu'il y a une empreinte carbone du transport maritime du commerce. Mais il y a aussi une empreinte carbone qui peut être plus forte parfois dans le local. Donc il faut regarder dans le détail, produit par produit.
Moins de fuite en avant, plus de cohérence, ce sera un peu le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe avec Sacha Mitchell de Courrier International, réalisation Adrien Toureau. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous les autres, le podcast via RFI.fr. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquel, ou que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.